Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, quelle place le mot « élection » tient-il dans les dictionnaires des plus anciens, XVIIe siècle au plus récent, dont celui de l'Académie française, bien sûr. Quelle est l'origine de ce mot et son histoire? A-t-il subi au fil des siècles une évolution? Et dans le même ordre d'idées, d'où viennent les mots associés à l'idée d'élection? Électeur, scrutin, ballottage, censitaire, isoloir, on en passe. Bref, vous l'avez compris, ce sont les mots des élections que nous allons passer en revue avec notre invité, que vous connaissez tous, puisqu'il anime sur Canal Academy la rubrique régulière « Le sens des mots », Jean Pruvot, lexicologue et grand collectionneur de dictionnaires devant l'éternel. Bonjour Jean.
Bonjour Hélène.
Vous êtes directeur éditorial des éditions Honoré Champion. Vous avez lancé la collection Champion les mots, qui comptera bientôt une dizaine de titres.
Bah c'est le dixième. Donc,
c'est le dixième, oui. Alors voilà, j'étais pas loin, dont le vin, le loup, la mer, le chat, le chocolat, le parfum, le fromage, tout récemment publié. Et un autre titre sur lequel j'insiste un tout petit peu plus parce qu'il est proche du sujet qui nous occupe, Le citoyen, que l'on doit à Frédéric Treffel et qui fait l'objet d'une autre émission sur Canal Academy. Jean, quelle est l'étymologie du mot « élection » a-t-il toujours été associé à l'idée d'un vote ?
Alors, ce qui est très surprenant, c'est de consulter les dictionnaires étymologiques, c'est toujours un grand bonheur. Mais quand on lit « élection », voire « lire », dans un premier temps, on peut être surpris. Mais si effectivement on se rappelle que lire, léguer, c'est cueillir, c'est choisir, par les yeux, donc les lettres d'un texte, ben choisir, choisir en dehors ou extraire quelque chose, ex léguer, extraire un élément, cueillir une personne, et voilà comment on peut choisir. Et c'est comme ça qu'on trouve des citations en 1660 où on nous déclare que l'élection des bonnes semences est un des plus importants articles du gouvernement des terres à grains. Bon, on a l'idée du gouvernement et on a l'idée du choix.
Quel est le tout premier dictionnaire dans lequel on lit en français le verbe « élire » ?
Alors, c'est un dictionnaire bilingue. Il s'agit du Robert Etienne, le dictionnaire françois-latin, et qui nous donne donc des exemples. Et parmi les exemples, élire lieu idoine, c'est-à-dire approprié, pour loger un camp, loca caperere, puisque à chaque fois c'était françois-latin, hein, donc, il faut élire et prendre une place pour les mouches à miel. Alors, j'aime assez cet exemple, parce que les mouches à miel, ce sont les abeilles, donc on commence par élire la place des abeilles.
Comme qu'on est encore proche de la terre, c'est voilà. Bien, c'est bon. Alors, au Moyen-Âge, on parlait en Allemagne des électeurs du Saint-Empire romain germanique, les électeurs avec un E majuscule qui étaient au nombre de 7, 4 princes et 3 hommes d'église, on ne vous cite pas lesquels, vous lirez le livre, ils élisaient l'empereur et c'est la définition qu'en donne Richelet, je crois.
Oui, Richelet donne effectivement cette définition prioritaire de l'électeur puisque on n'est pas encore sous la République et par conséquent, il faut définir en fonction de ce qui se fait à l'époque. Et là, Richelet n'hésite pas, il nous donne pour l'électeur le mot qui convient. Électeur, voilà ce que nous dit Richelet, l'un de ceux qui élisent l'empereur, il y a 7 électeurs, 3 ecclésiastiques et 4 séculiers. L'empereur Charles IV en 1356 fit une loi fondamentale pour leurs institutions. On voit ici, Richelet c'est un auteur de dictionnaire de langue, mais il est encyclopédique parce que électeur à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de précis. C'est le Saint-Empire germanique.
Alors Richelet c'est 1680, je le précise, mais il faut dire que Richelet ne l'utilise pas au féminin, ou est-ce qu'il l'utilise au féminin dans un autre sens? Parce que l'électrice,
oui, alors
c'est
il
pas
l'utilise
celle qui vote.
Au féminin, simplement pour dire électrice, femme d'électeur, et d'ailleurs il reprend un peu plus loin, élu, UE, femme d'élu, et au site Molière d'ailleurs, vous irez visiter Madame l'élu, c'est dans Tartuffe.
Alors voilà le dictionnaire de l'Académie française. Donc sa première édition date de 1694. Apporte-t-il une nouvelle approche au mot élection ?
Alors, le propre du dictionnaire de l'Académie française, ça a toujours été d'offrir énormément d'exemples, énormément de mise en situation du mot. Alors, élire, choisir, prendre par préférence, il se dit principalement des personnes. On sent ici la nécessité de bien expliquer le mot dans la langue. Et puis, les expressions. Élire au sort, élire à la pluralité des voix, élire un pape, un roi, un empereur, élire le plus digne, élire un magistrat, élire un tuteur, ceux que Dieu a élus. Et donc on voit que là, le mot est vraiment cerné, et c'est vraiment ce que l'on a un peu oublié à la fin du XVIIe, c'était cette belle description de la langue française. On était tous intéressés au XVIIe par Furetière qui donnait beaucoup de choses concrètes. Et puis, évidemment, ceux qui parlaient bien la langue ne pensaient pas que c'était utile de rappeler les mots. Mais pour nous, c'est extrêmement précieux d'avoir de pareils exemples.
Le dictionnaire de l'Académie française, toujours précieux. Alors, on sait que Corneille, Pierre, appartenait à l'Académie française, mais son frère Thomas, qui était d'abord à l'Académie des sciences, puis à l'Académie française pour remplacer Pierre, lui, il a publié un dictionnaire des sciences, il faut tout de même le dire, dans lequel on trouve un mot curieux, électuaire.
Oui, alors Thomas Corneille, qui a été élu sur le siège de son frère, avait été chargé, enfin il a proposé un dictionnaire des arts et des sciences qui faisait un peu pièce à celui de Furetière. Évidemment, ce qui l'intéresse, ce sont les mots un petit peu difficiles ou les mots des sciences. Électuaire se disait finalement d'un type de produit, alors je lis ce qu'il nous offre comme explication. On fait les électuaires non seulement pour avoir des remèdes toujours prêts contre les maladies internes, mais encore pour conserver plus longtemps la qualité des simples, c'est-à-dire les tisanes, les plantes. Ce médicament est composé de poudres aromatiques, de miel, de sucre ou de quelques autres ingrédients. Alors, j'en donne pas la liste, elle est très longue et parfois inquiétante. Il y avait notamment les électuaires molles. On disait pas mou, les électuaires molles. Par exemple, le catholicum, le diaphénix, le diaprin et les solides. Par exemple, le citro, le diacartami et le defueco. Alors, avec tout ça...
Si avec ça, j'en ai pas guéri, c'est à désespérer. Alors, passons maintenant, Jean Prouvot, au XVIIIe siècle. Là, évidemment, on change un peu de mentalité. On est, au fond, on trouve deux dynamiques dans les dictionnaires de l'époque. La précision d'un certain côté et puis l'esprit critique. Alors, le tout premier, c'est Gabriel Girard, qui était secrétaire du roi et qui publie le dictionnaire des synonymes François ou français. J'en parle parce que nous avons une émission avec lui sur Canal Académie où on a repris beaucoup de citations de l'abbé Gabriel Girard. Et alors, les encyclopédistes, Jean, comment ont-ils un esprit scientifique pour aborder les mots ?
Alors, ce qui est extraordinaire chez les encyclopédistes, c'est qu'ils étaient très sensibles à l'Académie française parce que les définitions de l'Académie étaient logiques. Donc, ils étaient sensibles aux définitions précises des mots. Alors, pour Girard, ils ont aussi un faible parce que c'est la distinction entre choisir et élire. Et donc là, on dit, par exemple, il se peut très aisément arriver que le choix n'est nulle part dans l'élection. Donc vous voyez, il y a quelques définitions qui sont précises et intéressent les philosophes. Et les philosophes, ce qui les passionne, c'est aussi des élections un peu particulières. Une qui me dépasse un peu, l'élection arithmétique, si j'aime les maths, mais bon.
Il y a des élections mathématiques ?
Oui, alors, dans les nombres et les combinaisons, c'est la différente manière de prendre quelques nombres ou quantités données ou séparément. Alors, je donne des exemples parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Ainsi, les quantités A, B, C peuvent être prises de 7 façons différentes, comme ABC, AB, AC, BC et A, B, C. Et voilà de l'élection
arithmétique. On a tout compris, c'est formidable. Alors, les encyclopédistes donc, qui font des élections, comme vous dites, scientifiques, mathématiques, mais aussi en droit, en histoire, en philosophie, ils sont les premiers à répertorier les pays d'élection en France.
Et ça, c'est très important parce que parfois, on peut se tromper dans le sens d'un mot. Et l'élection, c'est aussi le nom, effectivement, alors d'une région sur laquelle se trouve un tribunal. Et la définition qu'ils en donnent, d'ailleurs, c'est « signifie aussi un tribunal composé de plusieurs officiers, comme président, élu, etc., pour juger les différends qui concernent les tailles, les aides et les gabelles, ces fameux impôts. » Et ils précisent qu'il y a présentement 181 élections dans le royaume qui sont distribuées dans les provinces et généralités qu'on appelle pays d'élection. Donc, ce n'est pas un pays qu'on a choisi, mais c'est le pays avec un tribunal qui est lui
voilà.
Choisi.
Le sens du mot a un peu changé, en effet. Et alors, on trouve aussi un verbe un peu oublié, c'est le verbe « élite ». élité.
Oui, le verbe élité qui était prendre le meilleur d'une chose. Et voilà l'exemple qui est donné. L'auteur du dictionnaire de commerce pense que ce terme n'a guère lieu que parmi les petites marchandes des halles de Paris, comme de groseilles, cerises et autres fruits. C'est délicieux. Mais il est d'expérience qu'il est aussi usité parmi les autres marchands et que cette expression « vous élitez ma marchandise » leur est également familière. Alors il y avait aussi, ce que j'aimais bien, c'était « éliter les tulipes ». C'est-à-dire choisir les plus belles tulipes.
Bon,
alors
éliter.
Ça va être la saison. Il en restera toujours quelque chose.
Bientôt. Alors, on trouve maintenant un mot qui est encore court, il faut le dire, de nos jours, en Suisse romande. C'est le mot votation, c'est-à-dire voter pour une politique. Au fond, le sens politique du mot voter, il est très récent d'une certaine façon. Il date du 18e.
Oui, une fois de plus. Tout ce qui était démocratique venait plutôt de l'Angleterre. Les philosophes admiraient évidemment le système parlementaire anglais. Et le mot latin, bon, votum, vœu, avait pris en anglais un sens précis, to vote, et qui était donc à l'usage dans les délibérations politiques. D'où on voit arriver dans le dictionnaire de l'Académie française la dernière édition du 18e, la 5e édition, votant, celui qui vote, il y avait 30 votants, et puis votation. Action de voter, la votation n'a pas été libre. Alors ça, c'est intéressant comme exemple pour montrer qu'on n'était pas encore tout à fait...
Non, tout à fait, c'était juste voilà. Avant la Révolution ou tout juste après.
Tout juste.
Alors avec le 19e siècle, Jean Prouvot, on entre bien sûr en démocratie un tout petit peu plus, après moult formes d'autres régimes. Et les mots prennent-ils une connotation moderne, c'est-à-dire celle que nous avons actuellement? C'est-à-dire le mot vote, le mot élection, tout ça...
Oui, tous ces mots-là vont vraiment s'affiner et se tourner de plus en plus vers la République, puisque tout ce 19e siècle, c'est l'avènement de la République, la deuxième, la troisième, bon, qui finalement achèvera la fin du 19e siècle. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y ait un homme politique dont on connaît le nom aujourd'hui, mais qui avait un prédécesseur dans l'encyclopédie moderne de même patronyme. Alors, il n'y a aucun rapport, mais il faut quand même signaler qu'il y avait donc Gérard de Villepin.
Ce n'est pas de la publicité,
non,
soyons bien clairs, en 1848.
Qui, dans l'encyclopédie moderne, fait un très long article sur, effectivement, le vote, avec les premières clarifications.
Au 19e siècle, il y a un auteur de dictionnaire célèbre, c'est Maurice Lachâtre, même si on l'a un peu oublié aujourd'hui, et qui est lui, alors on lui est, nous, en tout cas nous les femmes très reconnaissantes, le premier à utiliser le mot « électrice ».
Oui, et il réserve à la fin de l'article consacré à électeur-électrice une forme de prophétie. Voilà ce qu'il dit. Dans un avenir prochain, toutes les femmes seront électrices. Et vraiment, c'est très novateur pour l'époque. Et en militant invétéré, il insiste un peu plus loin parce qu'il ouvre un article électrice, électrice, femme d'un électeur ou qui exerce les fonctions d'électeur. Dans l'avenir, les femmes seront électrices aux mêmes conditions que les hommes sont électeurs.
Alors bon. Il dit un avenir prochain. Il faudra tout de même attendre plus de trois quarts de siècle, c'est-à-dire l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que les femmes aient le droit de voter.
Voilà, je vois que vous avez bien retenu cela.
Voilà, j'ai bien retenu. Ça. Jean Prouvot, on marque une courte pause et puis on se retrouve après pour continuer avec les grands noms du dictionnaire, Larousse, Littré et les autres.
Marcher sur les traces de Théodore Monod, immortel de l'Académie des sciences, à la fois anthropologue, linguiste, océanographe, géologue, botaniste et philosophe, Théodore Monod a rempli sa vie de 70 années de traversée dans le désert, alignant des distances de 900 km de marche. Récit de cette vie d'aventure avec Roger Kans dans une émission Parcours sur Canal Académie.
Retour avec Jean Prouvot dans notre studio, dont nous parlons donc du champion Les Mots, fait écrit par Jean Prouvot et qui traite des élections. C'est publié chez Honoré Champion, bien sûr. Alors, nous étions en train de parler des deux grands du 19e, Larousse et Littré, qui, entre parenthèses, étaient tous les deux des républicains convaincu et candidat à des fonctions publiques.
Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a été élu, Littré, hein, qui faisait partie donc, de ceux qui partaient à Versailles au moment, donc après la guerre de 1870. Il est élu, il est médecin, il est grammairien, et alors c'est pas étonnant. Voilà la définition qu'il donne et qu'on trouve nulle part ailleurs. « Élection se prend au sens actif et au sens passif. L'élection du peuple, c'est l'élection faite par le peuple. L'élection d'un député, c'est l'élection qui est faite de ce député. » Et c'est charmant parce que chez Littré, c'est toujours austère pour
thèmes. Mais ça prouve que le « D » n'a pas tout à fait le même sens
voilà,
quand même.
Voilà. C'est très intéressant. Mais il met les choses au point et ça, c'est finalement délicieux.
Alors, on trouve aussi chez lui un mot inattendu « électionner ».
Oui, parce qu'il s'agit déjà d'avoir cette attitude consistant à lancer un candidat. Donc, on électionnait un candidat. Il ne l'aime pas beaucoup, d'ailleurs, mais il y en a un qu'il trouve délicieux. À chaque fois que Littré trouve un mot ancien et que les gens utilisent en pensant qu'ils viennent de l'inventer, il est ravi. Et c'est le mot « éliseur ». Alors, les éliseurs lui plaisent beaucoup et d'autres, à son époque, pensent qu'ils viennent de l'inventer.
Alors, voilà, puis Flammarion, lui, alors, il proposera électionneur. Au fond, c'est un mot qu'on peut décliner dans de nombreuses façons. Et à la fin du 19e siècle, alors, vous parlez dans cet ouvrage de deux autres témoins importants sur lesquels vous pourriez nous dire un petit mot, Ferdinand Buisson et Camille Flammarion.
Oui, parce que ce sont des ouvrages qu'on oublie un petit peu. Ferdinand Buisson qui évoque la souveraine énergie, je trouve que c'est vraiment une très belle formule. Il avait été collaborateur du grand dictionnaire universel du 19e siècle de Larousse et il écrit, publié en 1887, le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Et là, bon, il a toute une série de remarques intéressantes. Par exemple, l'élection découle du droit des gouvernés d'intervenir dans le gouvernement de la chose publique. Ce droit populaire en quelque sorte primordial, se trouve plus ou moins clairement défini à l'origine et comme à la base de toutes les sociétés. Altéré, restreint, opprimé, suspendu même, il persiste à travers les âges avec une souveraine énergie. Bon, ça c'est très beau, c'est Buisson qui croit en l'avenir et croit évidemment dans la jeunesse puisqu'il sera ministre de l'instruction publique. Et puis alors il y en a un autre qui s'appelle Flammarion qui fait le point d'une certaine façon. On sait que ce grand savant, cet astronome, va être aussi à la tête du dictionnaire universel dans les années 1890. Et là, on lui doit, dans le fond, une synthèse sur le fait que l'élection peut avoir lieu au suffrage universel ou au suffrage restreint, directement ou indirectement, au vote secret ou au vote public. Et donc, il rappelle que le suffrage universel est actuellement en vigueur non seulement en France, mais dans beaucoup de pays étrangers, parmi lesquels l'Allemagne, la Suisse, le Danemark. On sent la volonté d'offrir au lecteur une sorte de synthèse et en même temps tourner vers l'avenir, parce que tout n'est pas fini. Il s'agit encore de l'assurer, cette démocratie, par le vote.
Alors avec Jean Prouvot, nous n'avons fait que survoler ce petit livre, mais qui, vous l'avez compris, comporte énormément d'informations. Pour résumer la présentation, si vous me permettez, Jean, je dirais 130 pages, très illustrées, présentées...
144,
bon, parce qu'il y a l'index à la fin, voilà, allons, 144. Très illustrées, présentées de manière simple et claire, et avec de nombreux encadrés pour les définitions essentielles, c'est véritablement très pédagogique, comme outil, on peut dire. Une première partie, les mots dans le dictionnaire au fil des siècles. Une deuxième partie, les mots de la même famille et même la vingtaine de mots du même champ lexical, c'est-à-dire des mots qui se rattachent à ce même thème des élections. Et puis, troisième partie, des citations, des expressions, des formulations, des proverbes. Alors, on sait pourquoi il y a une élection de maréchal ou qu'il y a une définition du vase d'élection. Et ça n'est pas une urne, attention, vous trouverez ça page 87. Et aussi l'élu de Dieu et toutes les citations qu'on va certainement reprendre sur Canal Académie parce que vous nous y autorisez, merci.
Ah bah bien sûr.
Et aussi parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'académiciens, donc c'est une bonne raison.
Éliter les élections,
voilà.
Selon la formule ancienne.
Et alors vous n'avez pas omis d'y ajouter quelques pages d'humour.
Oui, c'est la fin. L'humour électoral me paraît tout à fait utile. Alors, notamment à travers des illustrations, il y en a une qui présente l'Assemblée nationale. Et on y voit un trottoir roulant qui traverse l'Assemblée nationale. Et on est évidemment en 1900. Et on dit que lorsqu'un député serait trop excité, eh bien, il pourrait prendre le trottoir roulant. Il se retrouverait comme ça dans l'exposition de 1900. Il rentrerait aisé, calmé et prêt à de nouvelles luttes oratoires. On remarquera, précise le journal, c'était l'illustré national du 17 juin 1900, que le public défilant aussi à travers le Palais Bourbon assisterait aux débats les plus mouvementés et que cette attraction si recherchée constituerait véritablement le clou de l'exposition.
Voilà, donc, on va proposer cette solution à tous les candidats actuels à l'élection présidentielle ou aux élections législatives. Alors, pour terminer, donc, de vous présenter ce petit livre, petit en taille, mais très complet, avec bibliographie et index, et un prix abordable, moins de 10 euros, c'est tout de même formidable aussi. Eh bien, on sait tout sur Élections et sa famille, grâce à Jean Pruvot. Merci, Jean Pruvot.
Merci beaucoup, Hélène.